Voilà, gloire à Dieu. Amen. Que vous soyez bénis tous les uns et les autres. Et puis il y a des nouvelles têtes aussi, des nouvelles personnes qui viennent. Peut-être pour certains, c'est la première fois que vous venez dans une église évangélique. Alors notre prière, c'est vraiment que votre cœur soit touché par la présence de Jésus-Christ. Amen. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour annoncer un message qui a été donné de Jésus, une bonne nouvelle, le salut que l'on peut obtenir en lui. Alors que chacun se sente bien dans la présence de Dieu. Amen. Faut prier aussi pour que ces instants soient des instants de bénédiction. Dieu n'est pas là pour nous écraser, nous faire du mal, nous détruire. Il est au contraire, il est là pour nous élever, nous aider à avancer dans cette vie. Je vous propose qu'on fasse une prière toute simple. Seigneur, nous te présentons ces moments devant toi, Jésus, et je te prie pour que ton esprit soit là. Tu déverses sur chacun des cœurs, Seigneur, vraiment cette bénédiction. Et nous sommes dans la joie, même si des fois on l'exprime d'une façon un peu particulière. Mais nous voulons faire face, Seigneur, à toute opposition, toute chose qui voudrait déstabiliser le plan du salut. Nous voulons vraiment remettre notre personne. Tout ce qui est humain en nous, Seigneur, vraiment les mettre au plus bas que terre et que toi, tu puisses croître. Nous voulons annoncer le plan de Jésus-Christ ce matin. Nous voulons que l'ambiance du royaume de Dieu soit ici, Seigneur. Nous voulons le proclamer, nous voulons l'annoncer. On veut que le royaume avance et je te prie pour cela, Seigneur, vraiment que tu puisses poser ta main sur chacun d'entre nous. Amen, Jésus. Amen. Alors, je vous propose une lecture. Donc, dans Luc, alors Luc chapitre 11, à partir du verset 14. Luc 11, verset 14. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent les unes sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il détruit ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend sept autres esprits plus mauvais que lui, et entre et s'établit là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux, le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Dans ce texte, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il existe un monde qui est visible et un monde qui est invisible. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais même si on ne les voit pas, elles existent. Il y a quelque chose qui est invisible et il y a des choses qui sont visibles. Et quand je lis ce texte, la chose qui me vient, c'est que ces passages-là, on les lit dans les assemblées depuis des années, même des siècles. Et des fois, je me dis qu'on les lit, mais on vit comme si elles n'existaient pas. Et même des fois, on ne va pas les enseigner, on ne va même pas les expérimenter. Vous pouvez même parler avec des frères et sœurs évangéliques sur les quatre coins de la France. Personne ne va vous dire qu'ils ne croient pas que les démons existent, mais tout le reste de leur vie, ils agissent comme s'ils n'existaient pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais des fois, même nous, on le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute dénomination, toute domination. Merci Robert. Donc, on le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Et puis, ce qu'on peut constater, souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de lutter contre la chair et le sang. Et on ne prend pas position contre ces choses qui sont dans le monde invisible. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir sur ces choses-là. Même certains pourraient dire, oui, ça paraît un peu moyenâgeux comme parole, mais c'est Christ qui l'annonce. Jésus-Christ a annoncé ces choses-là. Il nous donne un enseignement. Il y a un monde visible et un monde invisible. Et Jésus nous dit, il nous enseigne que ce monde invisible, il est aussi réel que le monde visible. Je vous donne une image. Quand vous êtes dans une pièce, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil qui passe dans cette pièce, et puis d'un coup, vous apercevez qu'il y a plein de petites particules partout. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez fait mal le ménage, mais il y a toujours des choses qui sont là. Et on aurait des yeux vraiment spirituels, même dans l'assemblée, il y a des choses qui sont là. Il y a un monde visible et un monde invisible. À l'entrée, même si on a un bon service d'accueil, je ne pense pas qu'il y ait un portique pour détecter les choses qu'il ne faut pas, les esprits mauvais. Et il y a, comme je vous le dis, un monde visible et un monde invisible. Et Christ nous dit que ce royaume invisible devient visible. Pourquoi ? Parce que c'est par le doigt de Dieu, Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu, et c'est ainsi que vous savez que le royaume de Dieu est là. C'est par ces choses-là. J'ai entendu un témoignage de... C'est pas un jugement, hein, c'est seulement un constat de gens qui ont été dans une église pendant facilement 6 mois. Ils se sentaient bien dans cette église, ils voulaient s'y installer, ils voulaient vivre leur vie... Ils voulaient vivre leur vie chrétienne avec cette communauté. Et puis, soudainement, ils ont entendu un enseignement sur prendre position par rapport à des forces démoniaques. Et là, ils se sont sentis mal à l'aise. Pour eux, ils avaient une conception que s'il y avait confrontation démoniaque, ça ne peut pas être une église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un jugement que je donne, mais certaines personnes ont peur de ce genre de conflit. Alors que la parole de Dieu nous en parle clairement, clairement. Et je pense que le meilleur endroit pour en parler, c'est quand même ici. Hein ? Le meilleur endroit pour parler qu'il y a un monde invisible et un monde visible, c'est bien au sein de l'Église. Donc pour ces personnes-là, il y avait comme une adéquation, s'il y a confrontation démoniaque, bientôt il va me demander de chasser des démons, non, ça ne va pas du tout, cette Église-là, je ne la ressens pas. Alors que Jésus l'a dit, il nous a dit que le royaume de Dieu, le fait qu'il chasse les démons, ça prouve que le royaume de Dieu est proche de vous. Les démons n'ont pas disparu, Satan n'a pas disparu, mais par contre, l'autorité en Jésus-Christ n'a pas non plus disparu. Prendre autorité en Jésus-Christ. On ne court pas après ça, on ne va pas courir après ça. On peut même se sentir mal à l'aise à travers ça. Ça paraît agressif. Hein, quand il se passe certaines choses, ça paraît agressif. Il y a quelque chose de combattant à travers ça. Mais cela fait partie aussi de la vie chrétienne. La vie chrétienne. Et donc, si on n'est pas là pour élever l'adversaire, on est là pour élever Jésus-Christ, amen, Jésus-Christ qui est vainqueur. Mais s'il y a confrontation à avoir, eh bien, on prend autorité dans le nom de Jésus. Amen. Et ça fait partie de la vie chrétienne normale. Vous savez, Jésus, il s'est présenté comme un agneau, mais il s'est présenté aussi comme un lion. Dans l'Apocalypse, vous l'avez. Et on ne peut pas être un agneau avec des forces démoniaques. On ne peut pas les flatter, leur dire, écoute, je vais t'aider, je vais te supporter. Non. Non, il y a une confrontation. Il y a une confrontation. Et ça, ce n'est pas toujours évident, la confrontation. Ah oui, mais si je confronte, il va voir que je ne l'aime pas, je ne suis pas dans l'amour. Non, il y a un moment, il y a des positions à avoir. Vous savez, quand Jésus a été chassé les vendeurs dans le temple, il ne leur a pas dit, je vous donne encore 20 minutes, si vous pouvez partir de l'endroit, après on va se parler, je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Non, il a pris les tables, il les a soulevées, il les a jetées. Et ça, c'est des passages qu'on ne dit pas toujours, mais c'est une réalité. Il a confronté. Et des fois, on se présente aussi, on peut se présenter comme un lion par rapport à des gens qui ont besoin de l'agneau. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir l'évangile de grâce, d'avoir le salut. Donc, il faut qu'on ait une confrontation mesurée. Je reviens sur ce que Jésus nous a enseigné. Il y a vraiment de bonnes choses à prendre à travers cet enseignement. Il nous parle de Satan dans ce message, dans ces versets, à travers l'image « un homme fort ». Quand il parle d'un homme fort et bien armé, il parle de l'adversaire. Et les propos de Jésus sont venus après une délivrance. Il a délivré une personne qui avait un esprit qui squattait en lui, qui le rendait muet. Et juste après, il a fait un enseignement. Déjà, la première chose, il ne faut pas qu'on amplifie la puissance de Satan. Il n'est pas tout puissant, sinon il serait Dieu. Il n'est pas omniscient, parce qu'il serait Dieu, il n'est pas omniprésent. Il ne faut pas qu'on amplifie sa puissance. Par contre, Jésus n'hésite pas à dire qu'il est fort. Il est rusé. Il est même plus intelligent que nous. Et si Jésus utilise l'image d'un homme, bien sûr, Satan n'est pas un homme. Satan est un chérubin protecteur qui était auprès de Dieu. Et à un moment, par orgueil, il a voulu, donc ça vous le retrouvez dans les Écritures, il a voulu être comme Dieu, à la hauteur de Dieu, être aussi grand que Dieu. Et par orgueil, il a chuté, il a péché, et avec lui, il a entraîné d'autres anges, des anges déçus. Donc, Satan n'est pas un homme, bien sûr, mais Jésus nous donne cette image. Il nous est dit que donc, Satan est fort, comme je vous le dis, il est fort, il est rusé, il est plus intelligent que nous. Et il nous est dit aussi qu'il est bien armé. Il est bien armé. C'est-à-dire qu'il a un équipement total, un équipement, il est bien armé. Comme des personnes qui voudraient bricoler aujourd'hui, souvent, il faut bien s'équiper pour faire du bon travail, avoir des bons outils. Eh bien, Satan, là-dessus, il est fort et bien armé, il est bien équipé. Et pour vous donner un petit peu une image de ce combat, que Satan est bien équipé, je voudrais vous donner une image, non pas d'un guerrier des temps modernes, je ne vais pas vous donner l'image d'un Américain avec son équipement, son pistolet mitrailleur ou quoi que ce soit, mais je voudrais vous donner l'image des gladiateurs. Des gladiateurs. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, et on le voit dans certains films, au temps de Jésus, il y avait des gladiateurs. Les gladiateurs, c'était des gens qui étaient... C'était des prisonniers, et on les mettait dans les arènes pour distraire le peuple romain. Et ces gens-là, ces gladiateurs, souvent, ils allaient au carnage. Et il y avait très peu de gladiateurs qui arrivaient jusqu'à l'âge de la retraite. Beaucoup mouraient avant d'arriver à une libération. Et c'était très rare qu'ils arrivaient jusqu'à la fin de leur carrière. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il nous est dit dans l'histoire que les gladiateurs qui arrivaient à leur retraite, on leur donnait un insigne honneur. On leur donnait un insigne honneur, c'est-à-dire un caillou blanc sur lequel étaient inscrits toutes les victoires, tous les adversaires qu'ils avaient vaincus. Ils recevaient un caillou blanc sur lequel ils avaient le nom de tous les adversaires qu'ils avaient vaincus. Et la Bible reprend cette image par rapport aux chrétiens, notre vie chrétienne. Il est dit à celui qui est vainqueur, Jésus, je dis Jésus parce que c'est marqué « je », mais quand vous prenez, c'est Jésus-Christ, lui donnera de la manne cachée et lui donnera un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Alors écoutez-moi bien. Dans notre vie, on traverse des combats. La vie chrétienne, elle n'est pas rose, on combat. Il nous est dit qu'à la fin, quand on sera auprès de Dieu, il nous donnera un caillou blanc sur lequel il y aura un nom. Et il n'y a que nous qui le connaissons. Parce que tous les combats que l'on peut vivre, il n'y a que nous qui pouvons les connaître. Les gens les voient de l'extérieur, mais les seuls qui peuvent connaître vraiment le combat que tu peux vivre, il n'y a que toi et Dieu. Et il nous est dit que Dieu nous donnera un caillou blanc sur lequel il est marqué un nom nouveau, que toi seul peux connaître. C'est-à-dire cette relation avec Dieu. Vous savez, souvent on dit « Dieu nous prépare une place ». Mais il la prépare comment ? Il la prépare par rapport à ce qu'on vit là actuellement. C'est une préparation. C'est-à-dire que c'est une place qui est préparée par rapport à ce que l'on vit. Et il nous donnera un nom nouveau sur lequel il n'y a que nous qui pouvons la connaître. Je crois que là-dessus, on est tous, le peuple de Dieu, on est vraiment à l'unisson sur ces choses-là, sur la difficulté, les angoisses, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Je crois que là-dessus, on se retrouve tous. Parce que nos combats, personne ne peut les... On peut écouter, on peut aider, mais les combats que vous vivez, il n'y a que vous. On peut avoir de la compassion, mais on ne peut pas se mettre totalement à la place de l'autre, c'est impossible. Puis arrêtons d'être le sauveur du monde. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. On peut accompagner, on peut prier. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que Dieu nous prépare un lieu et il veut nous donner aussi un nom nouveau sur lequel il n'y a que lui. Il sait nos combats. Je reviens au gladiateur. Vous savez, il y a la panoplie. Je vous parle de Satan a des armes, mais le chrétien, il a aussi des armes. Et on le rencontre où, cette description, les armes des chrétiens? Voilà, Éphésiens 6. Et vous savez, dans cette description, dans Éphésiens 6, ça ressemble à deux gouttes d'eau à la description d'un gladiateur qui s'appelait le Myrmillon. Le Myrmillon, c'était un gladiateur qui avait une épée, un bouclier, tout ce qui est décrit dans Éphésiens 6. Et souvent, ce gladiateur, il combattait un autre gladiateur qui s'appelait le rétière. Et le rétière, il avait un filet et un trident. Et c'était quelqu'un, le rétière, c'était quelqu'un qui était très agile. Il pouvait être très, très, très rapide. Et à travers cette image, c'est l'image du combat que nous pouvons mener. L'adversaire, il est là, et à travers l'image du rétière, c'est-à-dire qu'il a un filet, et son but, c'est de nous attirer dans son filet. C'est quoi le filet? C'est le piège. L'adversaire veut nous tendre des pièges pour nous prendre dans son filet et nous transpercer par son trident. Et ce matin, ce qu'on veut faire, nous, c'est tendre le filet de quoi? De l'Évangile. Jésus nous a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez pris dans les filets de l'Évangile, non pas pour être transpercés, mais pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Satan est un homme fort et bien armé, comme un gladiateur. La chose que l'on peut voir à travers ce texte, c'est qu'il se confie dans ses armes. C'est-à-dire que Satan se confie dans ses armes. Quelles sont les armes de Satan? Je ne suis pas là pour l'élever, mais je suis là pour qu'on puisse cerner ce qu'il est, pour envoyer après l'homme plus fort. Satan, il est menteur. Il est père du mensonge. Il est tentateur. Il est rusé, tacticien, manœuvrier. Il est séducteur, trompeur. En fin de compte, il se confie dans toutes ces armes-là. Il se fie au pouvoir de son mensonge. Il est menteur, il se confie là-dedans. Vous savez, quand vous rencontrez des gens à l'extérieur, des escrocs ou quoi que ce soit, c'est des gens, ils se confient dans quoi ? Dans leur mensonge. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à leur fin. Et Satan, c'est pareil, il se confie dans ces armes-là, dans le mensonge, la tentation. Ça, c'est les armes qui correspondent à ce qu'il est. Et puis, malheureusement, nous, en tant qu'hommes, on lui donne aussi des armes. Hein ? Souvent, l'expression... se faire tailler un bâton pour se faire battre. Et nous, des fois, on lui donne des armes. Et les armes qu'on peut lui donner, c'est quoi ? C'est certaines pratiques qui sont faites, telles que les choses occultes, les choses de spirit, vouloir parler avec certains esprits, vouloir questionner des morts. Certains peuvent faire ce genre de choses. Les porte-bonheur, la superstition, les gris-gris, ça donne du pouvoir à l'adversaire. Ça donne du pouvoir à l'adversaire. Ne pensez pas qu'on peut communiquer avec les morts. Il y a un domaine sur lequel on ne peut pas entrer. Et pour Dieu, ça va au-delà d'un péché, c'est une abomination, ce genre de choses. Et ça, c'est des armes qu'on peut aussi donner à l'adversaire. Et le péché aussi, c'est une porte ouverte. Ne laissez pas accès au diable. Donc, dans la description que nous avons, Satan est un homme fort, rusé, bien armé, et en plus, il se confie dans ses armes. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde à celui qui vient juste après, au verset 22, c'est l'homme plus fort. Et qui c'est l'homme plus fort ? Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme fort, c'est Satan, et l'homme plus fort, c'est Jésus-Christ. Jésus, on nous dit que c'est le second Adam. Le péché est rentré dans ce monde à travers le premier Adam. Et pour pouvoir racheter les hommes, il fallait qu'il y ait Jésus-Christ qui donne sa vie pour les uns et pour les autres. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il survient et il le dompte. L'homme plus fort dompte l'homme fort. Amen. Amen. Et comment Jésus a pu dompter cet homme fort ? C'était pas un super-héros avec des super-pouvoirs, hein. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il avait une condition d'homme. Amen. Il avait une condition comme vous et moi. Et Jésus a été tenté en tout point comme nous. Pareil, la même chose. Et c'est pour ça aussi que Jésus peut nous aider, parce qu'il s'est mis vraiment dans notre condition. Et quand il nous dit certaines choses, c'est parce qu'il l'a vécu. Il sait comment les choses peuvent se passer. Et Jésus-Christ a été tenté. Mais il a résisté la tentation. Jésus n'a pas péché. Tous les hommes qui sont venus auparavant, Adam a péché, Abraham a péché, Isaac a péché, Jacob a péché, David a péché. Mais le seul qui n'est pas péché, c'est Jésus-Christ. Et le monde, l'humanité, était en attente d'un homme qui vient dompter l'homme fort. Et Jésus-Christ est là. Jésus-Christ le dompte. Et comment il l'a dompté ? Il nous est dit qu'il a été baptisé, Jésus, il a été baptisé dans l'eau, il a été renouvelé, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, et ensuite il a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Et Jésus a résisté à toutes ces tentations. L'homme plus fort, moi j'aime le répéter, a dompté l'homme fort. Ça, c'est vraiment une position qu'il faut avoir. Est-ce que vous pensez que Jésus a été tenté uniquement pendant 40 jours ? Jésus-Christ a été tenté tout le long de sa vie, même dans la souffrance. À un moment, il nous est dit qu'il avait sur son front comme des gouttelettes de sang. Et il est marqué que cette coupe ne s'approche pas de moi. En fin de compte, il y avait comme une tentative aussi que le Christ puisse succomber avant d'arriver sur la croix. Il a été tenté de succomber, de lâcher. Et il est même dit que quand il était sur la croix, Jésus est mort très rapidement. Parce qu'en fin de compte, son corps a subi beaucoup, beaucoup d'attaques. Et quelle aubaine pour l'adversaire de faire mourir Jésus avant d'arriver sur la croix. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu a été faite. Hein, cette coupe s'est éloignée. Il a été tenté. Et même sur la croix, imaginez ces paroles qui lui ont été dites. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » cette provocation. Est-ce que vous pensez qu'il ne pouvait pas le faire ? Si, il pouvait le faire. Il est resté jusqu'à la fin. Pourquoi ? Il voulait dompter l'homme fort. Amen. On a des conversations certaines fois sur des chants. Et il y a des chants qui disent, par exemple, Satan est vaincu, il est lié. Et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, il est lié, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On le voit agir aujourd'hui. C'est vrai qu'on le voit agir. Hein, comme je vous le dis, l'homme donne des occasions à Satan d'agir. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui fait aussi que Satan est dompté. C'est-à-dire qu'il n'est plus aussi libre qu'avant. Il a été démasqué. L'adversaire est démasqué. Donc, il est. Vous savez, quand vous domptez quelque chose, comme on le voit avec, dans les cirques, avec il y a un dompteur qui est là pour que le lion puisse aller de telle ou telle chose, et puis il y a des grilles tout autour. Mais moi, ce que je pense, c'est que Satan est vaincu. Pourquoi ? Parce qu'on connaît sa fin. On sait qu'il ira dans les temps de feu. Hein, et comme disait quelqu'un, si Satan vient pour te parler de ton passé, toi, parle-lui de son avenir. Donc, on sait qu'il est vaincu. Ça, on le sait. Par contre, je crois aussi qu'il est limité. Parce que moi, ce que je veux prendre dans mon cœur, et je ne veux pas qu'il y ait une pensée d'incrédulité par rapport à tout ça, c'est que Jésus-Christ est plus fort. Il l'a dompté. Ce n'est pas nous en tant qu'hommes, mais il l'a dompté. Donc, il est limité. Donc, l'homme plus fort a enlevé des armes à Satan dans lesquelles il se confiait. Je vais vous citer deux armes que Satan avait, dans lequel il se confiait, et que le Christ a retiré de l'adversaire. La première, on l'a déjà balayée, c'est la tentation. Avant, l'adversaire pouvait dire, « Moi, tous les hommes sur la terre, je les ai tous tentés, ils ont tous succombé. J'ai cette arme-là, personne ne me résiste. » Jusqu'au jour où Jésus est venu, et là, c'est fini. Il ne peut plus dire que, tous ont été tentés. Est-ce que vous réalisez que ça, c'est une arme que Jésus a retirée de l'adversaire ? Même si on voit encore des tentations, mais Jésus-Christ est celui, et on doit se cacher en Jésus, Jésus-Christ est celui qui n'a pas été tenté. Il a résisté à la tentation jusqu'au bout. Et la deuxième arme que Jésus a retirée à l'adversaire, c'est que l'adversaire maintenait les hommes dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Amen. La mort est une chose, mais la peur de la mort en est une autre. Mourir dans la foi, c'est rejoindre Dieu. Mais mourir dans le péché, c'est donner à la mort, comme disait l'apôtre Paul, un aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et personne, amen, gloire à Dieu, personne avant Jésus-Christ n'avait vaincu la mort. Personne n'avait triomphé de la mort et Satan se confiait dans cette arme. Il se confiait dans cette arme. Quelle aubaine pour lui de pouvoir faire passer un homme sans que pour celui-là soit pardonné. C'est-à-dire que c'est la perdition éternelle. Mais maintenant, ça, c'est fini. Cette arme-là a été retirée. Amen. Cette arme-là a été retirée. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est une chose qui est incroyable, inédite. Et cette arme-là a été retirée de l'adversaire. Oui, il est possible de triompher de la mort. Et j'invite les gens qui écoutent peut-être l'Évangile pour la première fois, vous pouvez mourir sans que votre péché soit sur vous. Vous pouvez rejoindre le Christ sans que ce péché vienne et vous condamne. Parce que Jésus-Christ a payé toute chose à la croix. La foi n'empêche pas de mourir. Et comme disait l'apôtre Paul, mourir est pour moi un gain. La mort est une chose et la peur de mourir, c'est quelque chose d'autre. Peut-être que certains ont cette peur de mourir. Mais Jésus-Christ est venu en disant qu'il n'y a pas de perdition pour celui qui donne son cœur, qui confesse ses péchés, qui vient au pied de la croix pour être sauvé. Donc ça, c'est les deux armes que je peux vous citer que Satan ne peut pas, il peut plus utiliser. Bon, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre comme ça. Nous, des fois, les hommes, on baisse les bras très rapidement, mais lui, non. Il est toujours en train d'essayer d'être actif, et on le voit. Mais il y a des armes qu'il ne peut plus utiliser. Ensuite, c'est le dernier point que je voudrais voir avec vous. C'est à la fin des versets, il nous est parlé que il y a eu un homme qui était possédé, l'esprit est sorti, et ensuite on voit que sept autres esprits reviennent dans cette maison. C'est ce qu'on a lu. Et on pourrait se dire, mais pourquoi la maison a été à nouveau occupée ? Hein ? On pourrait avoir des interrogations, je ne comprends pas. C'est-à-dire, le démon est chassé, puis ils reviennent dans la maison, et la condition de cet homme-là est encore pire qu'avant. Il faut savoir que les esprits essayent de revenir. Ils essayent de revenir là où ils étaient. Les esprits sont jaloux des corps. Ils n'ont pas de corps, ils sont jaloux des corps. Donc dès qu'ils peuvent rentrer et squatter dans un être humain, ils le font. Je voudrais qu'on puisse observer un mot qui est dans Matthieu chapitre 12, verset 43, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 12, verset 43. Donc c'est la même histoire que dans Luc, mais il y a une petite différence, il y a quelque chose de supplémentaire et qui a toute son importance. Et voilà. Alors, à partir du verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, il n'en trouve pas. Mais il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Est-ce que vous avez trouvé ? Non. Vide. Vide. Il la trouve vide. Mais vide dans le sens de creux. Esprit est sorti, il la trouve vide. Et dimanche dernier, Daniel nous a parlé d'être rempli. Rempli. Il ne faut pas que la maison reste vide. Il faut qu'elle soit remplie de la présence de Dieu, remplie du Saint-Esprit, remplie de sa présence, remplie de sa parole. Moi, je vous encourage à lisez la parole, mais si vous avez des méditations, des choses qui vous viennent sur votre cœur, des compositions, des choses, moi, je vous encourage à le faire, parce que ça, c'est quelque chose qui enrichit votre vie et qui remplit votre cœur. Vous savez, quand on fait une étude sur la parole, souvent, celui qui en bénéficie le premier, c'est ceux qui l'étudient. Hein, et je crois que plusieurs frères peuvent le dire, et moi, je veux vraiment que vous puissiez l'étudier aussi. On n'est pas comme à un certain temps où la Bible était seulement destinée à une catégorie. Non, elle est à tout le monde, à toute personne. Et je vous encourage, écrivez. Il y a un petit cahier pour... après, vous faites comme vous voulez, mais sentez-vous inspiré par la parole. Il faut qu'on puisse être rempli. Rempli de sa présence. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer un temps dans le recueillement, là. J'appellerai le groupe de louanges. J'aimerais qu'on chante « Jésus-Christ est Seigneur ». C'est dans le j'aime 281. J'ai demandé à Gavard de le projeter. Et on va prendre seulement le refrain. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse se recueillir. Parce que le royaume de Dieu n'est pas uniquement qu'en parole. Nous savons qu'il y a des actes, il y a des choses qui sont là. Et je crois que Dieu veut agir aussi. Dieu veut agir dans les cœurs. Dieu veut agir parce que le royaume de Dieu est proche. Il veut s'avancer auprès de nous. Je voudrais dire simplement, dans cette maison, il fallait qu'il y ait une prise d'autorité sur l'homme fort. Et je crois qu'il y a des gens... des chrétiens qui sont bons, mais qui ont encore un homme fort dans leur vie. J'aimerais qu'on se recueille un instant. Vous savez, des fois on peut donner sa vie au Seigneur et c'est vrai que l'être humain est un peu comme une maison avec plusieurs pièces, plusieurs endroits, plusieurs zones. Et je crois que Il y a un moment, il y a un homme fort qui était là et qui n'est pas sorti. Et qu'il y a peut-être un homme fort qui est là depuis des années, mais qui n'a pas été retiré. Et dans la vie chrétienne, des fois, même la bonne volonté, les bons conseils et les efforts ne feront pas la différence. Ne feront pas la différence. Je ne sais pas comment vous interpeller ce matin, j'en ai aucune idée, mais je veux réclamer ce matin l'homme plus fort sur les vies. Et l'homme plus fort a été donné à qui ? Au corps de Christ. Et nous voulons prendre ces instants pour que l'homme fort soit délogé. Soit délogé dans le nom de Jésus. Ce que je vais faire, c'est, si quelqu'un se sent seulement interpellé, on le fait dans le recueillement, tout simplement. J'aimerais que tu puisses te recueillir. Si cette parole est là en disant, je sens qu'il y a encore un homme fort, il y a une partie en moi sur laquelle il veut encore dominer. Tu fais cette prière simple, tu vas en toi, tu cherches là où il peut se loger. Il peut se loger à travers des souvenirs, des choses qui sont là, et l'esprit d'incrédulité a pu se loger quelque part. Il y a des choses qui ont pu se loger. Et j'aimerais que tu dises tout simplement que cette chose-là est retirée dans le nom de Jésus par l'homme plus fort. Amen. Ces choses-là sont retirées par l'homme plus fort. Et je réclame la restauration totale en Jésus-Christ. L'entier droit de Dieu sur ta vie. Toutes choses qui ont pu même été prononcées sur ta vie, toutes ces imprécations, toutes ces choses qui sont là, qui donnent à l'adversaire de pouvoir te susciter des mensonges. Je veux prier vraiment que ces choses-là soient retirées dans le nom de Jésus. Et ça repart sous les pieds de Christ. Et nous voulons proclamer une chose ce matin. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es celui qui est vainqueur. Je veux que nous puissions ressortir de ce lieu encouragés par ta parole, Seigneur. Parce que tu es celui qui est venu dompter l'homme fort. Parce que toi, tu es l'homme plus fort. Et nous voulons, Seigneur, vraiment les vivre. Apprends-nous à détecter, à voir, à comprendre. Quand nous disons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, qu'on puisse vraiment le vivre, Seigneur, qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se cache derrière des positions, des choses, non pas contre l'homme, mais contre ses forces démoniaques, Seigneur, qui veut toujours détruire le plan de Dieu. Et je prie pour les personnes ce matin qui ont entendu peut-être pour la première fois l'Évangile. Sache que Dieu t'aime. Jésus nous a dit qu'il t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi. Et je voudrais vraiment que tu saisisses ces instants et que tu chéris ces paroles de l'Évangile, que tu peux mourir, non pas avec le péché sur toi, mais tu peux être déchargé de ce péché. Alléluia, Seigneur. Amen.